Nous ouvrons la parole de Dieu dans l'évangile de Jean au chapitre 16. Jésus dit les choses suivantes et il s'adresse aux disciples. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu ?» Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, « Que signifie ce qu'il nous dit ? Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. » Et parce que je vais au Père. Il disait donc, « Que signifie ce qu'il dit ? Encore un peu de temps. » Nous ne savons pas de quoi il parle. Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit, « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. » Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous me demanderez en mon nom. En ce jour, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. maintenant je quitte le monde et je vais au Père. » Ses disciples lui dirent, « Voici maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant. Voici, l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ce matin, j'aimerais au travers de ce chapitre considérer au travers du Saint-Esprit combien Dieu nous a fait un cadeau extraordinaire en nous envoyant le Saint-Esprit. Mais pour cela, j'aimerais que nous reprenions un passage que nous avons étudié vendredi soir durant l'étude biblique. C'est la deuxième épître de Pierre. De Pierre au chapitre 1, où nous voyons une affirmation qui est que le chrétien est à même de vivre une vie chrétienne victorieuse. Le chrétien est rendu capable de mener une vie sur l'exemple de Jésus-Christ. Lorsqu'il nous est dit, vous devez marcher comme il a marché lui-même, lorsque Paul dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, oui, chacun de nous qui avons cru en Jésus, qui lui avons confié notre vie, eh bien, à cet instant, au moment de la conversion, il y a une chose extraordinaire qui s'est passée et que nous lisons au verset 3, 2 Pierre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 10, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Ce texte est extraordinaire parce qu'il dit que celui qui est passé par la nouvelle naissance, qui a confié sa vie à Jésus-Christ par la repentance et la foi, alors Dieu, par sa divine puissance, lui a donné tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout. Il ne nous manque rien pour vivre une vie chrétienne à la hauteur, une vie chrétienne victorieuse. Et ce texte nous dit, puisque Dieu vous a donné tout ce qu'il faut, verset 5, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. C'est-à-dire, vous croyez, vous avez la foi, voilà, la foi de base. La foi de base. Mais cette foi-là, vous allez l'habiller, vous allez la fortifier, vous allez lui rajouter, et vient toute une liste de choses. Et vous en êtes capable, et vous pouvez faire tous vos efforts pour cela, parce que le Seigneur vous a donné tout ce qu'il faut, tout ce qui contribue. Puisque vous avez tout en main, à vous de jouer. Et parfois, nous vivons notre vie chrétienne en nous disant, il me manque quelque chose. Voilà, je vis une vie chrétienne, la victoire m'échappe, la joie m'échappe, la paix m'échappe, plénitude du Saint-Esprit m'échappe, le zèle du service m'échappe, l'amour m'échappe. On dit, je vis une vie chrétienne partielle, je vis une vie chrétienne, ouais, mais c'est parce que il manque, je sais pas, voilà, le Seigneur, il sait que bon, ben, écoute, c'est comme ça. Le Seigneur nous dit, il n'y a pas de. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout. Amen. Alors, après, il dit, maintenant, tu as tout en main. Crois-le, saisis-le par la foi, tu as tout en main et tu peux le mettre en œuvre, je t'ai tout donné. Maintenant, c'est à toi. Allez, vas-y. Vas-y. Alors, au travers de Jean 16, eh bien, et puis de l'ensemble des épîtres de Jean, dans ce panel de choses les plus grandes et les plus précieuses promesses, dans le fait que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, eh bien dans le chapitre que nous avons lu tout à l'heure, Jean 16, nous voyons en particulier le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'un des aspects de ce que nous avons lu en Pierre, du fait que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins, il a dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit. » Et nous avons le Saint-Esprit lorsque nous donnons notre vie à Dieu. L'Épître aux Romains dira « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Et nous avons reçu l'Esprit par lequel nous crions « Abba, Père, Papa, nous nous reconnaissons enfants de Dieu par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. » Alors, nous allons ce matin considérer quelques aspects de l'œuvre du Saint-Esprit qui fait que il nous épaule, il est là dans notre vie, il est actif, il est puissant, il est agissant, et sa présence et son action, eh bien oui, elle contribue à ce que nous puissions vivre une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne à la hauteur. Alors, d'abord, nous voyons le Saint-Esprit comme le Consolateur. Frères et sœurs, combien c'est important d'avoir Dieu qui vient en nous par son Esprit pour être premièrement non pas un juge, non pas un maître, fais ceci, fais ceci, fais cela, mais premièrement un consolateur. Moi, je suis touché de voir combien Jésus, lorsqu'il est face à ses disciples dans ce chapitre, on voit Jésus qui voit la tristesse de ses disciples. Il dit, votre cœur, il est triste, vous êtes dans la tristesse, je vois bien vous. Vous êtes désemparés. Vous êtes désemparés. Mais il y a une joie qui est là en perspective. Et il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous enverrai le Consolateur. Et il sera toujours avec vous. Et nul ne vous ravira votre joie. Et je vous dis ces choses afin que votre joie soit parfaite. Et on voit combien Jésus, face aux disciples, voit leur tristesse d'aujourd'hui, mais voit aussi leur tristesse de demain. Il le dit, il dit, vous serez dans la tristesse, verset 20. Vous pleurerez et vous vous lamenterez. Fin du chapitre, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Combien le Seigneur tient compte des choses difficiles que nous vivons. Combien le Seigneur est sensible à notre chagrin, à notre tristesse, à notre souffrance. Et combien il tient à consoler. Il ne veut pas rester inactif. Vous savez, des fois, nous sommes face à quelqu'un qui pleure, qui est dans la tristesse, et on ne sait pas trop quoi dire, on ne sait pas quoi faire pour consoler, pour l'aider, pour l'encourager. On essaye, parfois on réussit, mais on est souvent tellement malhabile. Hein. C'est toujours des situations où c'est difficile d'être auprès de quelqu'un qui souffre parce qu'on ne sait pas comment l'encourager, le consoler. On aimerait. Eh bien, le Seigneur, quand il voit notre tristesse, notre chagrin, il veut se tenir et il se tient. Et il est là pour se tenir si nous l'accueillons comme le consolateur. Celui qui se tient à nos côtés, c'est exactement le mot du grec, le paraclète, celui qui se tient à côté. Celui qui te met la main sur l'épaule, celui qui te prend dans ses bras, celui qui t'écoute, celui qui te parle, celui qui te console, celui qui te défend. C'est le même mot qui veut dire avocat. Celui qui se tient à côté, l'avocat se tient à côté. Et on fait front ensemble. Eh bien, frères et sœurs, nous pouvons mener une vie chrétienne à la hauteur, pleine, entière, parce que le Seigneur nous a donné tout ce qui contribue. Et une de ces choses, c'est la présence vivante, personnelle du Saint-Esprit en nous qui se tient pour consoler. Alors puissions-nous nous appuyer sur le Consolateur. Puissions-nous ne pas croire au mensonge que nous sommes tout seuls. Jésus dit aux disciples, l'heure vient où vous me laisserez seul. Il parle de la croix. Les disciples vont fuir. Il dit, l'heure vient où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Eh bien, dans nos moments, justement, peut-être de solitude, de souffrance, de tristesse, croyons résolument que nous ne sommes pas seuls, mais que le Saint-Esprit se tient à nos côtés. Il est celui qui est à nos côtés, vraiment à nos côtés, et qui console. Accueillons, saisissons la consolation que Dieu veut nous donner par le Saint-Esprit. Et je dois admettre pour ma part que parfois, je suis rebelle à cela parce que, selon certaines situations difficiles, peut-être je suis en colère et j'ai pas envie que le Saint-Esprit me console. J'ai pas envie qu'il me console. Je veux rester avec mon chagrin amer. C'est tellement dommage. Ouvrons notre cœur au Seigneur en lui disant, Seigneur, tu permets ceci, tu permets cela, mais je veux vraiment le vivre avec le consolateur que tu m'as envoyé pour être à mes côtés et me laisser consoler par lui. Vous savez, parfois vous vous approchez pour consoler quelqu'un, puis cette personne vous repousse du bras, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, elle ne veut pas être consolée. Que nous puissions laisser le Saint-Esprit faire son œuvre de consolateur en nous. Voilà une chose fort importante, parce que dans la vie chrétienne, il n'y a pas que des moments de gaieté, il y a des moments difficiles qui viennent nous saper le moral, qui viennent rendre compliquée notre existence en Jésus. Et bien l'une des choses qui contribuent à la vie, à la piété, c'est cette présence du Consolateur, plus grande et les plus précieuses promesses. Amen. Alors, puissions-nous le vivre et trouver par le Saint-Esprit la joie que nul ne peut nous ravir. Car le fruit de l'Esprit, c'est la joie. Pas que, hein, mais voilà. La deuxième chose que le Saint-Esprit fait pour que nous puissions vivre une vie à la hauteur, une vie chrétienne pleine, entière, c'est le fait que il est celui qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alors, il faut bien nous représenter dans notre société humaine ce qui se passe lorsqu'on commet un délit ou qu'on commet un crime. Quelqu'un commet un délit, commet un crime, et vient le moment où les enquêteurs parviennent, on va dire, à le confondre. C'est le mot qu'on emploie, hein. Ils parviennent à le confondre. C'est le sens ici de convaincre en ce qui concerne le péché. Confondu. Voilà un coupable qui est confondu par le Saint-Esprit. Il est face à son péché. Et dans les affaires judiciaires de notre actualité, je vais prendre deux exemples que je vais mettre en parallèle. Bien sûr, le meurtre de cette petite fille, Maëlys, avec ce monsieur, Nordal-Lelandais. Voilà quelqu'un qui a fini par être confondu par les enquêteurs. Il a été mis face à une preuve, à une réalité, cette goutte de sang, ben voilà. Et jusque-là, il n'était pas confondu. Mais il y a eu tout ce travail d'enquête pour mettre le coupable face à son crime et à son délit. Deuxième affaire qui a eu lieu cette semaine, c'est cette affaire du violeur de la Sambre. Depuis plus de 30 ans, il y avait un violeur en série et il a fini par être confondu cette semaine. Je ne sais plus comment, mais voilà, ça y est, on a pu le coincer quelque part et le confondre, le mettre face à son crime, à son délit. Eh bien, le Saint-Esprit agit de la même manière envers l'être humain. Le Saint-Esprit va agir pour qu'à un moment, on soit face à nous-mêmes, face à notre péché, et qu'on soit confondu, et qu'on ait la bouche fermée, et que, ben voilà, qu'est-ce que tu veux que je dise ? Il est là. Et il convainc de péché. Alors, attention, il y a la réaction positive et la réaction négative. Hein. Il y a deux réactions. Il y a celle qui va produire la repentance et la conversion, et puis il y a celle qui va produire un endurcissement face au fait d'être confondu. Alors, à partir de ça, convaincre de péché, il y a ensuite convaincre de justice. Alors, oui, il convainc de péché, de justice. Lorsque nous sommes, on a confondu quelqu'un, d'un crime, d'un délit, eh bien, le système judiciaire se met en marche. il y a des comptes à rendre. Il va falloir s'expliquer. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment dans les deux affaires que j'ai mentionnées. Nous en sommes pas à la troisième partie du jugement, vous êtes d'accord ? Nous en sommes pour l'instant à la partie justice. Il y a eu la première partie, confondue. Maintenant, il y a la deuxième partie, justice. Oui, le Saint-Esprit va dire, face à quelqu'un qu'il a mis face à son péché, il est en train de lui dire maintenant, parce que tu es la créature d'un Dieu saint et parfait, tu as des comptes à rendre. C'est pas gratuit, c'est pas comme ça. Il y a la justice de Dieu et on ne pêche pas impunément. On ne pêche pas impunément. Ça marche pas comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il y a des comptes à rendre. Il va falloir s'expliquer, il va falloir aviser. Et c'est tout le travail donc de la justice et du parquet et donc le procureur qui va dire ben voilà, telle personne a commis telle chose et nous pensons qu'il est coupable de cela et qu'il mérite cela. Ce n'est toujours pas le jugement, hein. Ça c'est le procureur qui présente un réquisitoire. C'est la justice. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit prend l'homme. Il le confond. Ailleurs, Paul dira, Dieu a tout renfermé sous le péché afin que toute bouche soit fermée devant lui. Voilà. Plus rien dire. Et puis maintenant, j'ai des comptes à rendre. Et puis vient le jugement. Le jugement est rendu. Alors, il y a bien sûr deux attitudes. J'ai pris les deux exemples parce que c'est intéressant de voir les deux attitudes différentes dans ces deux affaires. Dans l'affaire Maëlys, nous avons un coupable dont l'attitude, je dirais pour le moment en tout cas, relève plus de l'endurcissement et du déni. Hein ? Tant qu'il n'y avait rien pour le confondre, droit comme un i. Et puis, aussitôt qu'on lui présente son crime face à face, hein, on confond, alors la réponse, la seule réponse qui est donnée pour l'instant, c'est oui, c'est vrai, je l'ai tué, mais c'était accidentel. C'était un accident. Donc vous voyez, l'échappatoire, voilà, c'est... On est confondu. Oui, mais c'est pas de ma faute, c'est un accident. Pour l'instant, on en est là. Voilà. Et l'être humain, face au travail du Saint-Esprit, qui à un moment dans sa vie va le confronter à sa manière d'agir, de penser, qui est mauvaise, peut dire oui, mais non. Oui, mais enfin, c'est pas de ma faute. Oui, enfin, oh, oh. C'est un accident, enfin c'est personne n'est parfait, et puis en fait c'est parce que l'Épître aux Romains appelle ça l'endurcissement et un cœur impénitent. Il dit par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère. Ou alors il y a une autre réaction. C'est le deuxième exemple que j'ai pris. Ce monsieur qui a été confondu, eh bien, aussitôt qu'il a été face aux enquêteurs, immédiatement, il a dit oui, c'est vrai, c'est moi, et j'ai commis une quarantaine de viols. Voilà. Alors, il n'a pas cherché, hein, 40, allez. Mais voilà, il y a ce. Ben oui, je suis confondu, et puis, oui, c'est moi, et voilà. Et on dit, c'est pas parce qu'il a dit c'est moi qu'il ne mérite pas de jugement. Vous êtes d'accord ? Et nous ? C'est pas parce qu'on dit c'est vrai Seigneur, j'ai fait ça, je suis pécheur. C'est pas pour ça qu'on ne mérite pas de jugement. Mais c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit va convaincre de la justice qui est en Jésus-Christ. Il convainc de cette justice dont Jésus-Christ me recouvre, c'est qu'il se tient, Jésus se tient à mon côté comme mon avocat, et puis il me défend. Et face au juge, il dit, c'est vrai, cet homme est coupable, mais cet homme a déjà été condamné. Il a déjà payé, parce que j'ai payé pour lui. Je suis mort pour lui, j'ai porté son péché, sa culpabilité à sa place. Et mieux encore, il est mort avec moi. Hein, la Bible nous dit que nous sommes, c'est pas simplement que Christ est mort à notre place, c'est que nous sommes morts avec Christ. Nous avons été jugés en Christ. Salaire du péché, c'est la mort. Oui, nous sommes morts, cachés en Christ, lorsque Christ est mort. Et nous sommes ressuscités avec lui. Voilà la justice. Et voilà ce que le Saint-Esprit fait. Il convainc, c'est celui qui convainc un cœur d'ouvrir sa vie à Jésus. C'est lui qui convainc un cœur de passer par cette repentance, ce demi-tour, et demander pardon et accueillir le pardon de Jésus par la croix. Et puis le jugement. Eh bien, nous ne serons pas jugés avec le monde, puisque Christ a porté notre peine. Mais le Saint-Esprit convainc également ceux qui sont réfractaires, ceux dont le cœur est endurci, et c'est un avertissement. Il dit, tu sais, c'est un appel qui est là. Tu vas devoir rendre tes comptes, et tu seras jugé. Alors, ce que j'ai envie de dire à partir de cela, c'est que d'abord, chaque homme dans sa vie reçoit la visite du Saint-Esprit pour le convaincre. 1 Timothée 2,4 dit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Il le veut. Et Romains 2, 4-6 dit « Ne reconnais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» Et il use envers toi de patience, etc. La bonté de Dieu te pousse. Qui c'est qui pousse? C'est le Saint-Esprit. Nous pouvons avoir cette confiance et cette certitude que pour chaque être humain, le Saint-Esprit visite sa vie pour faire son travail de conviction, de confondre, le mettre face à son péché, le mettre face à cette réalité du mal qu'il commet, dont il est coupable, lui signifier qu'il y a des comptes à rendre en tant qu'être humain dans l'existence face au Créateur. Et chaque être humain, le Saint-Esprit lance ce message, adresse ce message au cœur, et qu'il y a un jugement. Les réactions sont différentes. On peut céder au Saint-Esprit et trouver en Jésus-Christ justice et salut, ou on peut s'endurcir. Et la deuxième chose, c'est que face au défi de convaincre, parfois nous jouons bien sûr notre rôle de témoin de Jésus-Christ, on parle de Jésus, de l'Évangile, cette bonne nouvelle du salut. On dit, mais je ne suis pas doué pour convaincre. Toi, tu es un porte-parole. Tiens-toi prêt, au mieux que tu peux. Mais le job de convaincre, c'est le travail du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas seuls. Lorsque nous témoignons, il y a le Saint-Esprit qui se tient à nos côtés et qui convainc. C'est lui qui s'adresse au cœur pour mettre face au péché, pour confondre. Et pour faire retentir avec solennité le fait qu'on a des comptes à rendre, il y a une justice. et qu'il y a un jugement, c'est lui qui fait ce travail. Alors, soyons encouragés d'évangéliser, de témoigner, parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui travaille. Amen. Merci Seigneur, parce que le Saint-Esprit a travaillé dans notre cœur, à notre égard, pour nous. Il nous a confondus. Et quand on est confondu, on a honte, hein. C'est pas un bon moment. Et en même temps, le Saint-Esprit, à ce moment-là, nous montre toute la justice qu'il y a en Jésus-Christ. Quelle joie. Terminons avec le fait qu'il nous conduit maintenant dans la vérité. Nous avons vu qu'il est le consolateur. Qu'est-ce que c'est précieux? Il est celui qui convainc. Il est l'enquêteur, il est le procureur, il est le juge, mais il est l'avocat aussi. Et puis, il conduit dans la vérité. Nous terminons sur ça. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, c'est le verset 13, il vous conduira dans toute la vérité. Un petit peu plus tard, au chapitre suivant, Jésus dira, ta parole est la vérité. Et nous voyons en 2 Timothée 3:16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour, le premier verbe c'est pour convaincre. Premier mot, pour convaincre. Cette vérité, au travers des écritures. D'abord, bien sûr, pour que les écritures soient là, toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est soufflée, et le souffle dans la Bible, hein, soufflé de Dieu, le souffle c'est l'esprit. Enfin, l'esprit ça veut dire le souffle en fait, voilà, c'est le même mot. Elle est insufflée, elle est spirisufflée de Dieu. Voilà, c'est Dieu par l'esprit qui inspire ceux qui ont parlé de la part de Dieu, les prophètes, les rédacteurs de la Bible. Et bien sûr, concernant Jésus, nous voyons, il prendra ce qui est à moi et vous l'apportera. En Jean 14, 26, un petit peu plus précisément, on voit ce travail du Saint-Esprit dans la rédaction des Écritures. Quand le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. On se dit, tiens, comment les disciples ont-ils pu se souvenir de tout ce que Jésus a raconté pendant 3 ans de ministère? Vous savez comment ils se sont rappelés? Parce que le Saint-Esprit a agi et qu'il leur a rappelé ce que Jésus avait dit. Jésus avait dit, il viendra, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Formidable! Il vous conduira dans toute la vérité. Et donc, à partir de là, terminons sur quelque chose de très important. La parole de Dieu, elle est toujours d'actualité. La Bible, elle est intemporelle. Et qui c'est qui la rend intemporelle? C'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit fait cette œuvre de saisir les choses de Dieu pour nous les faire comprendre, pour nous les appliquer à notre culture, à notre époque, à notre contexte. Et ça, c'est important. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais vous prenez un livre qui est vieux de 2000 ans, en tout cas pour sa partie la plus récente, pour ses parties les plus anciennes, c'est encore pire, encore plus vieux. On est 2000 ans plus tard quand même, hein, c'est un peu périmé votre truc. Avant, il y avait un contexte, il y avait une culture, bon ben voilà. Mais maintenant, c'est dépassé. Eh bien non. Il n'y a rien de dépassé dans la Bible parce que le Saint-Esprit qui est vivant, eh bien, il conduit les âmes, il conduit le cœur à saisir la vérité de la parole de Dieu. Il conduit dans la vérité, quelle que soit l'époque, quel que soit le contexte de notre vie, la culture. La Bible est à même de s'adresser à une âme de façon entièrement pertinente parce que l'Esprit de Dieu prend ce qui est à Christ, ce qui est à Dieu et nous l'enseigne. Amen. Et voilà pourquoi nous pouvons fonder solidement notre vie sur l'écriture. Quand 2 Timothée 3,16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu », alors on va quand même le lire, c'est formidable. 2 Timothée 3,16 « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Nous avons dit tout à l'heure, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Ce verset se termine « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Eh bien, il y a là, bien sûr, la Bible, l'Écriture, qui est une des choses que Dieu nous a données quand il dit « nous a donné tout ce qui contribue ». Mais s'il n'y avait que l'Écriture toute seule, ça ne serait pas suffisant. Il y a l'Écriture et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous fait, nous ouvre les Écritures. Amen. Voilà quel beau cadeau nous avons reçu de la part de Dieu quand il a dit « Je vous enverrai le Consolateur ». C'est vraiment important, c'est juste une petite touche sur cela. Dans notre monde, nous avons évolué dans notre façon dont nous concevons la société, dont nous concevons la vérité, la moralité, l'autorité et l'identité. Tout début de l'ère chrétienne, c'était le monde gréco-romain. Et il y avait donc une pensée gréco-romaine qui façonnait la société, qui façonnait les esprits, qui façonnait la culture, qui façonnait les arts, qui façonnait la perception de soi-même. Comment est-ce que je me considère ? Mais on se considère dans un mode de pensée gréco-romain. Et les philosophes en étaient les fers de lance. Ensuite, la société a évolué aux alentours de 300-350, vers la toute-puissance du clergé de l'Église catholique, hein, avec Constantin qui a rendu l'Église religion d'État, etc. Et là, on a connu des siècles où toute la société était façonnée par le clergé. La vérité, c'est ce que le clergé disait. La politique, l'économie, la culture, les arts étaient tournés, tout était tourné sur le religieux, le clergé, et c'est ça qui façonnait la pensée d'une société. Donc, c'était quoi la vérité ? Ben, la vérité, c'est ce que disait l'Église. Voilà. La moralité, c'est ce que l'Église avait décrété. L'autorité, c'était celle de l'Église, hein, l'Inquisition, etc. Voilà. Tout tournait autour de ça. Et bien sûr, c'était une culture et une époque. Mais dans cette culture et dans cette époque, le Saint-Esprit était à même d'enseigner les vérités de la parole et de conduire dans la vérité. Amen. Puis ensuite, on a évolué, est arrivé ce qu'on appelle le siècle des Lumières. Là, on a mis de côté on en avait marre, hein, des religieux, etc., les prêtres, le pape, tout ça, c'est bon, on a donné, allez, on va s'en débarrasser. Et donc, c'était le siècle et l'époque de la raison, c'est ce qu'on a appelé l'époque moderne. Et l'époque moderne, avec ce dieu de la raison, c'était essentiellement la science. C'est là où on a fait des avancées scientifiques énormes, l'industrie s'est développée, et donc la vérité, c'était plus ce que dit l'Église, hein, ou ce que dit le clergé, la vérité, c'est ce que dit la science. La vérité, elle est dans la science, notre avenir, il est dans la science, et ça a façonné des mentalités, des identités et des sociétés, hein. Un regard tourné sur la société, y compris sur la moralité. Donc dans cette époque moderne, alors je dis ça mais ça va très très loin, le nazisme est directement issu de cette pensée de la science, puisque la vérité c'était la science. Il y a eu la pensée de l'évolution, n'est-ce pas, hein, avec Darwin, en disant il y a des races inférieures et il y a des races supérieures. Alors on mesurait les crânes, on allait en Afrique, on prenait des Africains, hop, on mesurait leurs crânes, on disait oui, leur diamètre, il est aussi de là, ça prouve que c'est des races inférieures. On allait prendre un Chinois, oui, c'est... Ouais, bon, tout ça pour que la race blanche soit supérieure. Bon. au nom de la science, la pensée et le développement logique s'est développé en politique. Et ça a donné le nazisme, avec la suprématie de la race aryenne, et donc on va éliminer, on va accélérer le processus scientifique de l'évolution et de la lutte des espèces, et pour gagner un peu de temps, on va les supprimer. Et ça fait supprimer dans les camps de concentration des millions de personnes. Ça, c'était l'époque moderne. Bien sûr, la Seconde Guerre mondiale a été un tel traumatisme que nous sommes passés à une culture, à une pensée qu'on appelle post-moderne. Maintenant, on sait que la science, hein, la bombe atomique, ouais, eh bien, on peut faire des ravages avec une bombe atomique. On a vu les limites de la science et de la raison. Alors, on est passé à une autre forme de pensée aujourd'hui, c'est celle qui façonne de plus en plus notre monde aujourd'hui, la pensée postmoderne, et celle-là est tournée sur l'individu, sur soi. Et là, quelle est la conception de la vérité? Chacun sa vérité. Avant, la vérité, c'était ce que pensait le clergé. Après, c'était la science. Et aujourd'hui, c'est, bon, en fait, chacun a sa vérité. Ta vérité, c'est ta vérité, ben, c'est bien, elle est bonne pour toi. Aujourd'hui, le mode de pensée est centré sur soi-même, sur son épanouissement. Et donc, vous voyez, les maîtres à penser de l'époque gréco-romaine, c'était les philosophes. Les maîtres à penser de l'époque du clergé, c'était bien sûr les autorités religieuses. Ensuite, c'était les scientifiques. Et aujourd'hui, ce sont les psychologues. Voilà. En gros, hein. Mais tout ça, ça nous touche. Notre conception de la moralité, aujourd'hui, c'est quoi la moralité? Divorcer, changer de femme, être homosexuel, ceci, cela, coucher avant le mariage. Dans l'époque moderne, hein, vous allez en 1940, c'était pas comme ça. Hein. Aujourd'hui, dans notre monde post-moderne, on est façonné différemment. Et on se dit, mais est-ce que la Bible a toujours son mot à dire? Oui. Et nous terminons donc par Romains 12. Ce sera le mot de la fin, Romains 12. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Chaque époque, chaque culture. Alors quand je parle bien sûr de pensée postmoderne, c'est ici en Occident. Hein. Vous prenez une société islamique, durement islamique, son modèle est plutôt celui qu'on connaissait à l'époque de l'Église catholique toute puissante. Hein, voilà. On n'est pas partout sur la planète. Voilà. En tout cas, pour nous qui vivons ici, c'est comme ça. Donc, le Seigneur dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a un mode de pensée qui nous façonne. Mais le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Quelle que soit l'époque, quelle que soit la culture, quel que soit mon contexte, la Bible, elle est à même de toucher ma vie, elle est ce que j'ai besoin pour vivre. C'est ce qui contribue, le Seigneur nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Elle est pertinente pour que je puisse vivre victorieusement, pour que je puisse vivre à l'exemple de Jésus-Christ, même à mon époque, même dans ma culture, parce que le Saint-Esprit, il fait ce travail de me le moderniser, j'ai envie de dire, mais tu vois, dans ton époque, dans ton contexte, eh ben, attends, je te l'explique pour toi. Et il fait ce travail. Amen. Alors, non, c'est pas un vieux livre qui est dépassé. La Bible, elle est intemporelle, parce que le Saint-Esprit est vivant et qu'il agit dans les cœurs pour que nous la comprenions avec pertinence dans notre mode de vie, dans notre vie à nous aujourd'hui. Prions. Merci Seigneur parce que tu nous as donné tout ce qu'il faut. Tout ce qui contribue à la vie chrétienne victorieuse, à la piété, à cet attachement, à cette vie modelée sur Jésus. Merci parce que tu nous as envoyé le Consolateur, merci pour sa présence à nos côtés, la consolation qu'il nous donne dans les épreuves, dans les chagrins. Aide-nous à nous appuyer sur le Consolateur plutôt qu'à le repousser. Merci Seigneur pour la joie que tu peux donner même dans la tristesse. Merci Seigneur parce que tu es celui qui nous confond mais qui nous ouvre la justice en Jésus-Christ. Tu ne veux pas laisser le péché dominer dans notre vie et ton Saint-Esprit nous sonde. Comme disait le psalmiste, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Oui, Seigneur, par ton Saint-Esprit, tu le fais. Merci, parce que tu nous conduis sur cette voie d'éternité. Merci, parce que tu, par l'Esprit, tu nous expliques la parole. Tu nous l'appliques à nos circonstances, à notre époque. Seigneur, qu'à partir de toutes ces choses, nous puissions nous relever avec zèle pour, à partir de cela, faire tous nos efforts pour joindre à notre foi tout ce qu'il faut, pour avoir une vie chrétienne solide et profonde, victorieuse à ton service. Être des hommes et des femmes de Dieu accomplis et propres à toute bonne œuvre. Merci parce que tu nous as donné tout ce qu'il faut pour cela. Et en particulier que nous puissions considérer dans nos cœurs le Saint-Esprit qui nous habite et qui œuvre. Et c'est au nom de Jésus que nous te remercions et que nous te prions. Amen.